Bonjour à tous, nous sommes à Transition School avec Sandrine, animatrice du jeu de peindre.
Alors, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche ?
Comment ça marche ? Alors, comment ça marche ? En fait, c'est un jeu et c'est très simple. Tu vois, l'espace, il est clair, il est dégagé, il y a ces panneaux verticaux tout autour, puis c'est ta palette au milieu et c'est tout. Et tout le jeu est basé là-dessus, et sur la liberté surtout. Donc en fait, tu voudrais savoir comment se passe une séance, par exemple.
Mm-hmm.
Donc l'enfant, une fois que tout est préparé, bon là, c'est pas fini, hein, donc il y a les pinceaux sur les porte-pinceaux. Chacun vient, choisit sa couleur, se positionne bien en face, parallèlement à la table palette. Et puis, tout simplement, saisit le pinceau par le milieu, le trempe une fois dans l'eau, le trempe une fois dans la peinture, et va à sa feuille qui est punaisée sur les panneaux verticaux. Et donc, il y a un va-et-vient constant entre l'individuel et le collectif, entre l'espace privé sacré de la feuille que nous, on respecte totalement, et la table palette qui est l'endroit où on se rencontre avec les autres et où on doit respecter le fait qu'on fait partie d'un groupe. Donc on peut être complètement soi-même puisqu'il n'y a aucune consigne, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de commentaire, ni d'approbation, ni de désapprobation d'aucune sorte. Donc en fait, face à ta feuille, tu es avec toi-même complètement. Et il n'y a pas de spectateur, ni pendant la séance, ni après la séance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas emmener ses peintures. Donc pas de jugement a posteriori, de tendance à peindre pour papa, pour maman, pour tonton. Et je sais que maman, elle aime les oiseaux bleus, donc je vais faire un oiseau bleu. Je connais bien ça parce que ma fille me le fait. Donc non, là, l'enfant, il est vraiment face à lui-même, qu'est-ce que je vais faire pour moi ? Il ne se pose même pas la question, d'ailleurs. Au bout d'un moment, ça devient totalement naturel. Il rentre dans son propre univers, il rentre à l'intérieur de lui-même. Parce que par nature, la peinture, c'est une activité qui concentre et qui tourne l'attention vers autre chose, vers l'intérieur. Il n'y a pas de gros efforts à faire pour ça, ça se fait tout à fait spontanément. Et dans ces conditions de non-jugement, donc, il y a vraiment une rencontre avec soi qui se passe et une transformation de ce fait. Voilà. En gros, pour comment se passe une séance, donc, ils vont peindre. Autant de feuilles qu'ils veulent dans une séance. S'ils veulent peindre une feuille sur 6 mois, ils vont peindre une feuille sur 6 mois. S'ils veulent peindre, rajouter des feuilles et faire des fresques gigantesques, ils peuvent aussi sur le temps qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de limite d'espace. Il n'y a pas de limite de temps. Et à chaque fois que l'enfant revient ici, c'est comme s'il avait quitté la séance la seconde d'avant. Tout est possible, en fait. Tout est possible ici.
Et l'enfant, en fait, il ne cherche pas après à vouloir la reconnaissance, savoir qu'est-ce que tu en penses, ou c'est clair depuis le début, il y a les règles du jeu.
Par rapport à la reconnaissance, en fait, finalement, au bout d'une ou deux fois où ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas emmener leur peinture, généralement, ils abandonnent très très bien la chose. Et puis par contre, on garde chaque enfant, chaque adulte, chaque personne qui vient peindre, à son dossier avec ses peintures dedans, et à n'importe quel moment on peut les regarder. Mais il peut les regarder tout seul avec son dossier ou avec moi, le serment, donc le praticien du jeu de peindre, mais pas non plus pour le montrer aux autres, pour l'étaler, etc. Donc c'est un rendez-vous. Quand un enfant exprime la demande de voir son dossier, à ce moment-là on se met en intimité ensemble et on regarde son dossier. Je ne fais aucun commentaire, généralement c'est l'enfant lui-même qui exprime des choses. Je suis juste une oreille qui écoute le plus neutre possible. Et à la fin, ils repartent satisfaits d'avoir pu à nouveau parcourir. Mais c'est assez rare, hein, en fin de compte.
Ils demandent
très peu. Parce qu'ils sont complètement dans le processus. Au bout d'un moment qu'on vient ici, on sait très bien qu'on ne peint pas pour un résultat. On peint pour la joie d'être ensemble, collectivement, dans un processus où on peut être à la fois soi-même, tout en étant dans un groupe, mais être pleinement soi-même. Donc il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité. C'est vrai que le fait que ce soit protégé de tout regard extérieur, de tout jugement, enlève tout ça, enlève toute cette comparaison qu'on a tendance à faire. Donc il n'y a plus besoin après de chercher le résultat, il y a autre chose qui se passe. Ils le sentent très très bien. Au bout de quelques séances, ça disparaît très vite ce besoin de commentaires, de jugements. C'est plus difficile pour certains adultes, par contre. Et parce que là, bah évidemment, chez les adultes, l'ego est plus fort et plus cristallisé. Donc, parfois, qu'ils ne puissent pas emmener leur peinture ou simplement même commenter, même eux-mêmes, leur peinture, je dirais même, c'est d'autant plus difficile qu'ils ont plus de connaissances, qu'ils sont artistes, par exemple, artistes-peintres. Alors là, ils ont l'habitude d'avoir un certain rapport avec leur travail, qu'ils considèrent comme une œuvre ou comme... Et là, c'est plus difficile de lâcher. Ça demande à lâcher prise. Donc, mais c'est intéressant parce que c'est complètement connecté au travail qu'on fait ici, au travail du yoga, qui est vraiment, on donne, on fait, on est dans un processus et le fruit de notre travail n'est pas entre nos mains. Donc, c'est pas mal pour l'ego, hein, là. Du coup, il est obligé de rester à la porte, le mental aussi. Donc au départ, les seules résistances que j'ai eues, c'est vraiment les plus grosses, je vais dire. Hein, parce qu'il y en a toujours, c'est normal ça. C'est pas facile de peindre librement. C'est pas facile d'être libre, d'être face à la feuille blanche et de savoir qu'en plus, on va pas avoir la récompense du gentil commentaire à la fin. Donc, mais au bout d'un moment, ces résistances-là, elles tombent. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport aux artistes qui viennent ici et qui peignent, c'est qu'au début, donc, il y a un peu cette frustration, mais ensuite, au contraire, ils s'aperçoivent qu'ils trouvent une liberté énorme qu'ils n'avaient pas dans leur propre atelier, parce qu'ils sont toujours sous l'œil d'un spectateur invisible. Ils sont toujours en train de peindre pour un public. Qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, un jour il y aura un public. Et là, d'un coup, ils n'ont plus de public, ils trouvent une liberté qui enrichit ensuite leur propre création dans leur atelier. Une fois qu'ils ont vraiment lâché ce truc de tout ce qu'ils ont appris d'abord, et puis voilà. Finalement, les personnes qui n'ont jamais peint, qui n'ont jamais dessiné ou qui ont eu un blocage dans leur enfance par rapport à justement des commentaires qu'on a pu leur dire, mais tu fais toujours la même chose, ou c'est pas beau ce que tu fais, ou recommence, c'est mal. Ceux qui viennent là, les adultes ou les enfants, tous les âges qui viennent là, en ayant été bloqués dans leur processus, ils reprennent complètement le fil ici et ils libèrent complètement ce blocage. Et puis ils sont très spontanés du coup. Ils rentrent tout de suite dans la formulation, ce qu'Arnstein appelle la formulation.
Alors, qu'est-ce que c'est que la formulation?
Alors, en fait, ce concept-là de peinture, du jeu de peindre, hein, donc, a été créé par Arnstein à Paris. À l'origine, il a fait peindre des orphelins après la guerre, et il avait lui-même aucune connaissance artistique, il n'a pas du tout été formé dans une école d'art ni quoi que ce soit, mais on lui avait demandé de s'occuper d'une cinquantaine d'orphelins, et donc, comme ils étaient très nombreux, qu'il avait un tout petit espace, ben, il les a fait peindre sur le mur. Voilà. Parce que c'était tout simplement plus pratique au départ. Et puis, il a mis les couleurs ensemble au milieu de la pièce. Donc, c'est comme ça que l'agencement est né. Il est né d'une nécessité purement matérielle, économique. Et puis, il s'est aperçu, parce que comme il ne connaissait rien, il ne jugeait pas les peintures, et en plus, naturellement. Donc. Et puis, en plus, c'est quelqu'un de très observateur, et qui a commencé à s'apercevoir que, tiens, il y a toujours les mêmes figures qui reviennent. Tiens, c'est toujours dans le même ordre. Tiens, il y a des signes récurrents. Alors, donc, il a commencé à répertorier ces signes, ces figures, de façon systématique, assidue, sur de nombreuses années. L'atelier s'est développé, il a continué, il s'est aperçu que quand on laissait les enfants libres, il y avait vraiment une joie intérieure, un plaisir de l'expression libre qui était immense. Et donc il a continué. Comme il dit lui-même, ça lui est tombé dessus en fait. Et il a continué cette exploration vraiment comme une mission. Donc il a ouvert son propre atelier à Paris, ça marchait très 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 bien. Et puis il a voulu poursuivre sa recherche en parallèle, donc il a voyagé dans différents pays pour voir pour vérifier si ce code était universel, si vraiment dans tous les pays, dans les mêmes conditions de non-jugement, on pouvait retrouver ces mêmes signes. Et donc il a voyagé en Éthiopie, au Pérou, en Afghanistan, enfin dans de nombreuses contrées. Il a cherché évidemment les enfants, les peuplades les plus protégés de l'influence de l'école et de la télévision et de tout, pour vraiment trouver la pureté de ça. Et puis il s'est aperçu qu'effectivement, Le petit Africain en guenille qui peignait avec sa table palette portable à même le sol sur des feuilles peignait la même chose que le petit Parisien bourgeois du 14e arrondissement. Les mêmes signes apparaissent et dans la même chronologie. Donc, bon, évidemment, c'était une confirmation de son intuition et de ses observations. Et il a ouvert un institut de recherche qui étudie systématiquement ces signes, pas d'un point de vue psychologique, parce qu'il n'y a aucune interprétation psychologique, mais comme une grammaire. Quels signes apparaissent, dans quel ordre, quels sont leurs rapports, certains évoluent, d'autres n'évoluent pas, etc. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il a répertorié tout ça, il a écrit des livres, il fait des conférences dans le monde entier, bon, surtout en Europe. Et puis, il est venu en Inde, il est venu à Auroville, donc il nous a offert cette formation. Et bon, les ateliers sont arrivés à Auroville avant que Arnaud Stern vienne, en fait.
Ah, oui. Alors, comment c'est arrivé à Auroville?
Il y a une praticienne qui a été formée par Arnaud Stern, qui est venue en tant que visiteur à Auroville. Et puis, elle a rencontré Claire au kindergarten, qui, elle, avait déjà observé cette récurrence de certaines figures, était pleine de questions par rapport à ça. Et puis quand Claire et Petrouchka, donc elle s'appelle comme ça, se sont rencontrées, ça a été vraiment la réponse à toutes les questions de Claire. Mais c'est ça que j'observe depuis des années, je ne sais pas ce que c'est. C'est la formulation, c'est ces signes qui se répètent et qui, vraiment, quand on est en contact avec eux et qu'on les laisse librement jaillir, entraînent une transformation nette. Donc, Petrouchka a ouvert cet atelier à Transition, a offert des ateliers pendant 6 mois. Moi, je donnais ma classe de français juste à côté et je venais espionner ce qui se passait, ce mystérieux atelier de peinture, cet agencement très spécial. Et je me disais, oh, mais ça m'attire beaucoup. Donc, je lui ai demandé de me former aussi. Et elle formait Claire aussi pendant ce temps-là, Petrouchka. Puis, elle se trouve que Petrouchka n'avait pas le temps à ce moment-là puisqu'elle formait déjà Claire et que Claire m'a formée ensuite. Puis, je suis allée à Paris pour voir ma famille et j'en ai profité pour demander un entretien avec Arnaud Stern. On a beaucoup parlé d'Auroville parce que bien sûr tout ça c'est très connecté à Auroville. C'est vraiment une mini-société idéale cet atelier. C'est aussi ce qu'on cherche à faire à une plus grande échelle à Auroville. Comment être ensemble dans un rapport qui ne soit pas basé sur la concurrence, la compétition, être dans un rapport de collaboration, de fraternité. C'est exactement ce qui se passe ici à une toute petite échelle. Bon, c'est quand même des groupes de 15 personnes à peu près qui viennent. Donc c'est pas mal et qu'on essaie de faire une grande échelle à Auroville. Donc
on a. Il connaissait Auroville.
Il connaissait Sri Aurobindo. Il avait lu son œuvre. Il connaissait moi mère. Il avait entendu parler d'Auroville. Donc pendant 2 heures, on était ensemble dans un café à Paris. On a parlé beaucoup de plus d'Auroville que du Japon en fait. Mais quand même, il a voulu savoir où on en était. Et puis il nous a dit mais il faut absolument que vous soyez formés. C'est indispensable de connaître parfaitement ces signes pour avoir ce regard neutre. Justement, qui ne juge pas et qui ne regarde pas la peinture d'un point de vue esthétique. Donc je lui dis, mais bien sûr, je suis tout à fait prête à faire la formation, mais c'est beaucoup trop cher pour nous. On vit à Auroville, on est au niveau de vie indien. En plus de ça, on est des travailleurs volontaires, donc on ne peut pas s'offrir. Il nous a invités, Claire et moi, gratuitement, à suivre sa formation. Donc mon voyage a été payé par Sayer en plus. Et là, on a été formés. Ensuite, on est revenu, on l'a invité, lui, à venir. On a créé un projet qui a été accepté. Et c'est là qu'il est venu, qu'il a offert une formation à 45 professeurs, parents, éducateurs d'Auroville. Ça a très, très bien marché. Tout le monde a été là. C'était une initiation de 5 jours, du matin jusqu'au soir. Et les Auroviliens ont été là chaque jour. Il n'y a vraiment personne qui a manqué ce rendez-vous, et y compris pour la formation pratique le soir. En plus, donc, et puis il y a eu des conférences publiques qui ont été ouvertes à tous. Et voilà, son fils était là aussi à parler de son expérience.
Qui lui n'a jamais été à l'école.
Qui n'a pas, voilà, jamais allé à l'école. Et bon, c'était vraiment une expérience qui a beaucoup aidé le jeu de peintre à se développer dans Auroville, hein, parce qu'ensuite il y a eu vraiment un enthousiasme grandissant pour cette activité. Ça s'est développé dans plusieurs écoles. Et voilà, donc la progression continue, le développement de l'activité continue.
Et c'était il y a combien de temps cette rencontre?
C'était en mars, il y a 2 ans.
Et depuis, ça s'est pas éteint, ça continue.
Non, ça continue. Il y a eu vraiment un mouvement très dynamique et enthousiasmé au début, où ça a fleuri, les petits bourgeons ont fleuri un peu dans différentes écoles. Et puis maintenant, on est dans la phase où il y a un engagement qui est demandé de la part des écoles pour que ça puisse continuer, un engagement financier et vraiment qui donne la place à l'activité sur le long terme. Donc on est dans la phase, dans une transition là, par rapport à ça. Donc certaines écoles continuent, d'autres ne peuvent pas, pour des raisons financières, continuer. Mais globalement, ça se développe de toute façon très très bien. Puis on a une liste d'attente d'adultes qui veulent joindre l'atelier. On a offert un atelier d'ailleurs pendant un an aux adultes. Mais on veut vraiment mélanger les âges parce que ça offre une dynamique extraordinaire. Parce que les enfants apportent leur spontanéité, leur joie. Et les adultes apportent leur calme, leur concentration, qui fait qu'il n'y a pas besoin de discipline. Hein, ça s'équilibre tout seul, tout naturellement, l'énergie du groupe fait que les enfants restent concentrés une heure et demie très facilement et les adultes se libèrent, retrouvent l'enfant en eux et contactent beaucoup plus facilement ce langage intérieur qui est une mémoire en fait, du corps. Donc par rapport aux enfants, l'évolution elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Tu vois des enfants qui arrivent, qui le premier... Pour ceux qui commencent, hein, je peux prendre cette couleur ? Oui. Et je peux aussi prendre celle-là ? Oui. Et tu peux faire vraiment ce que je veux ? Mais oui, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Et puis une confiance qui s'installe, une confiance en eux-mêmes, une liberté. Tu sens que c'est un besoin intérieur très profond qui s'exprime. Et il y a un enthousiasme, il y a une joie. Certains avec... comment dirais-je ? Sont très méticuleux. Très lent, très pointilleux dans ce qu'ils font. D'autres bondissent sur la feuille et font des gestes dans tous les sens. Et l'un comme l'autre, on doit à être eux-mêmes complètement là-dedans. Donc, il y a des enfants vraiment qui prennent confiance en eux. Ceux qui sont de tendance agitée, on va avoir tendance à se calmer, à se concentrer. Ceux qui sont plus concentrés et qui intériorisés, on va avoir tendance à s'ouvrir, s'épanouir. Donc l'être s'équilibre tout à fait naturellement parce que tout simplement quand on est libre, il y a quelque chose d'autre en soi qui prend en main l'éducation. Et c'est une partie très profonde de nous qui va nous guider et va nous équilibrer tout à fait naturellement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Quand on laisse les enfants libres, on a souvent peur en tant qu'adulte, on a cette vieille formation que ça va être chaotique. Bien au contraire, c'est structuré. Et la personne va faire et reproduire et répéter de façon systématique les figures qui lui sont propres, qui lui correspondent et qui le structurent.
Hein, c'est-à-dire que les gens, ils ont leur propre figure.
Oui. Alors ça, comme je te l'ai dit, hein, c'est un code universel. La formulation, c'est un ensemble d'environ 70 figures et de phénomènes aussi. Il y a des figures et des phénomènes. Mais chacun... dans ce répertoire qu'il ne connaît pas, bien sûr, il ne le sait pas mentalement tout ça. Nous, on le sait, le servant le sait, mais ne le dit jamais. Hein. Il va avoir plusieurs figures qui vont être prépondérantes et qui va répéter et qui vont évoluer à travers cette répétition. Répétition et évolution vont de pair au sein de l'atelier. Alors, elles vont évoluer de différentes manières. Hein. Certaines figures vont devenir de plus en plus grandes, par exemple, et vont prendre toute la feuille. Et puis il va falloir rajouter des feuilles, parce que ça ne suffit pas. C'est une telle nécessité intérieure, c'est un tel enthousiasme, qu'il faut que ça grandisse, que ça soit vécu dans toute son ampleur. Donc, je peux vous donner un exemple d'un enfant, je ne vais pas dire le nom évidemment, mais qui a commencé l'année dernière ce qu'on appelle un espace de lumière, qui va pouvoir utiliser comme prétexte le soleil, mais qui peut utiliser bien d'autres prétextes, comme le volcan, comme... tout ce qui utilise les couleurs rouge, orange, jaune, cette palette lumineuse. Il l'a commencé l'année dernière, quelques mois avant la fin de l'année. Ce qui était passionnant, c'est que ce petit soleil était perdu dans un coin de sa feuille, puis il a grandi au fur et à mesure des mois, jusqu'à prendre tout l'espace. Et cette année, il a continué en début d'année le processus, comme si les deux mois de vacances n'avaient pas existé. Il a repris exactement là où il en était, et il a fait un espace de lumière qui remplit tout ce panneau que tu vois là. Donc il doit faire 2 mètres de haut, même plus, hein, 2 mètres et demi, sur 3 mètres de large. Et il a rempli complètement. Et il a vécu son processus, sa figure, jusqu'au bout. Et puis, quand il a eu terminé, il a pu passer à une autre manifestation. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'après avoir fait cet espace de lumière qui était un énorme soleil orange sur un énorme fond jaune, avec des énormes rayons, après ça, il est passé à une autre figure. Il a dessiné, il a peint un dragon. Et la flamme du dragon, rouge et orange, l'espace de lumière était encore là et prenait. Et très vite, le dragon est devenu secondaire et la flamme est devenue énorme et de plus en plus énorme. Donc, il continuait à vivre ce phénomène nécessaire qui venait d'une partie très profonde de lui en utilisant d'autres prétextes habillés par que le mental utilisait pour justifier cette manifestation profonde. Il a continué. Et ça, c'est un exemple parmi... Pour chaque enfant... Chaque enfant va trouver ce qui lui correspond et le répéter systématiquement d'une façon ou d'une autre, le faire évoluer. Arrêter quand il a vraiment vécu la chose pleinement, il va passer à un autre signe. Et puis l'explorer. Mais il y a une répétition qui est systématique et nécessaire à l'évolution. On ne va pas dire ici, oh, il fait toujours la même chose, quel manque d'imagination. On va dire... Super, il a trouvé son langage. On ne le dira pas, hein. Le servant le pense en lui-même et il trouve beaucoup de joie. Il s'est trouvé, il a trouvé son univers et il est en train de l'explorer jusqu'au bout. Donc, il est dans son processus de transformation.
Je te laissais peut-être continuer.
Ouais, il faut que je termine ma table palette absolument parce qu'ils vont être à l'heure, hein, même si moi je suis en retard.
Ils viennent à quelle heure ?
Alors, je prépare le matin pendant 2 heures. Donc, la préparation de la tapalette n'est qu'une partie de la préparation. Ensuite, je vais préparer les mélanges, les petits pots de mélange, voir aussi ceux qui vont pas, etc. Ensuite, je vais installer les peintures qui ne sont pas finies, mettre en place mettre les pinceaux à tremper pendant 1 heure, puis les mettre en place sur les porte-pinceaux. Ce sont des pinceaux qui viennent de Paris, qui viennent de l'atelier de la Bernstein, donc, et qui sont l'équivalent des petits gris, c'est-à-dire des poils d'écureuil qui absorbent et donc qui ont besoin de beaucoup de soins et de beaucoup de préparation. Quand l'enfant arrive, le pinceau est totalement imbibé d'eau, et ce qui fait qu'il va pouvoir absorber la couleur très très bien et être utilisé sur la feuille pendant un temps assez long, parce qu'il se gorge de peinture et d'eau. Et puis, une fois que tout sera prêt, les mélanges, la tapalette, les panneaux avec les peintures qui doivent être continuées, j'installe des coussins pour la petite concentration avant de commencer. Ça, c'est la petite touche eurovillienne. Arnaud Stern ne le fait pas à Paris. Mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'adapter la chose à ma sauce quand même. Et heureusement. Et voilà, ce sera prêt. Je vais aller manger et puis eux vont arriver vers 13h30. Donc voilà, donc pour moi cette pratique en tant que servante elle est vraiment connectée à ma vie. Et puis pour les enfants, l'énergie groupe qui se développe ici, c'est aussi quelque chose qui est complètement pour moi connecté à l'éducation telle qu'en parle mère, hein, le libre progrès, la possibilité d'être soi-même parmi le groupe et d'évoluer non seulement parallèlement au groupe et individuellement ensemble. Cette équipe du groupe et de l'individuel, c'est aussi ce qu'on cherche à ma vie. Comment être à la fois suivre son chemin particulier au sein d'une évolution collective qui, elle aussi, a ses exigences. C'est pas toujours facile, hein, d'autant plus qu'on est libre. Et qu'on peut pas rejeter la responsabilité sur son voisin, sur le maire, sur les lois. Non, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de responsable. On est tous responsables ici, on est libre, on est tous responsables. C'est pas évident, ça.
Et comment tu es arrivée à Auroville ?
Ah, comment tu es arrivée à Auroville ? Je suis arrivée à Auroville parce que j'ai vu de la lumière dans les yeux d'une amie qui revenait d'Auroville. J'avoue que je connaissais absolument rien, mais alors rien du tout d'Auroville. Je dois aller laver la cuillère.
Ouais.
Donc j'avais pas lu Mère, j'avais pas lu chez Auroville. Et j'avais juste vachement entendu parler d'Auroville par cette copine, hein. Et puis quand je suis retournée la chercher à l'aéroport, j'ai vu la lumière dans ses yeux, ça allait droit en moi. moi, dans une partie très profonde, dans mon cœur, dans mes yeux aussi. Et j'ai dit, mais c'est ça que je cherche depuis des années. Donc j'ai pris une semaine après, j'étais dans l'avion avec mon sac à dos, tout ça, j'avais rien réservé. Je savais même pas qu'il fallait réserver une guest house, un taxi. Voilà, puis j'ai eu la chance extraordinaire que dans l'avion, les gens qui étaient devant moi avaient aussi un mobile. Donc j'ai pris leur taxi, j'ai dormi dans leur guest house. Et c'est comme ça que je suis arrivée au Ovid, vraiment par une impulsion, un appel irrésistible, alors que j'avais mon travail, mon copain, ma maison, tout allait très très bien. J'avais aucune raison de partir, et puis je suis partie du jour au lendemain. La première fois, je suis restée 3 mois.
Cette première fois, t'étais partie 3 mois comme ça?
Ouais. Oui, oui. Mais tu sais, ça fait longtemps que je cherchais. J'avais beaucoup de perception aussi étant petite, et notamment je supportais pas, je voyais très très bien quand les adultes mentaient. Je disais souvent à ma mère, mais pourquoi tes copines avec elles te mentent? Et puis ça se vérifiait toujours après, et puis des choses de télépathie, enfin bon bref. Donc comme beaucoup de gens qui arrivent à Rouville, j'étais en recherche depuis très très longtemps. Je m'intéressais à Krishnamurti, au bouddhisme, voilà, en même temps je faisais mes études de lettres. Mais j'avais pas trouvé de réponse satisfaisante. Le bouddhisme, ça m'allait jusqu'à un certain point. Et au-delà, j'étais pas d'accord. Moi, je sentais vraiment au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui était présent en tout, et qui était au-dessus de nous, et qui arrangeait très bien les choses pour nous. Donc, et ça, dans le bouddhisme, tu l'as pas, hein, tu vois. Enfin, en tout cas, au point où je l'ai compris. Et c'était une expérience vivante que je cherchais. Et puis je l'ai trouvée, vraiment. Je suis arrivée ici. C'était vraiment une ouverture, une porte qui s'est ouverte à l'intérieur de moi. Des expériences intérieures les unes derrière les autres. Toute une dimension intérieure que je ne connaissais pas. J'étais pleine d'amour pour le monde entier. J'avais envie de sauver la planète à moi toute seule. Bon, après, c'est retombé un peu, parce que ça, c'est vraiment le moment de l'appel. On a un moment où on est appelé à revivre. C'est très, très magique. On est sur un petit nuage. Hein. Tout le monde, je ne suis pas extraordinaire du tout. C'est l'expérience de la plupart des Euroviens, vécue chacun à sa manière, évidemment. Mais si tu n'as pas un appel intérieur, s'il n'y a pas une expérience vécue de cet ordre-là qui se produit, tu ne viens pas à Euroville. Sûrement quelque chose de similaire, hein. Mais c'est évident, tu peux pas venir en vie s'il n'y a pas un appel intérieur, parce qu'il y a plein de raisons. Tu n'abandonnes pas ton pays, ta famille. Bon, même si le monde peut ne pas te satisfaire, c'est une chose, mais ça suffit pas. Il faut une raison positive. La raison négative, les réactions ne suffisent pas à nous faire quitter tout un monde qu'on connaît parfaitement bien et dans lequel on se sent en sécurité, même si on critique d'un bout à l'autre. Mais bon, c'était évident. J'étais tellement heureuse, même en étant en Occident, en France, bon, j'étais à La Réunion, en fait, de savoir que Auroville existait. En soi, c'était un vrai bonheur pour moi. Puis ça m'a plus suffi, parce que t'as besoin... Ici, t'as un support collectif, t'as une énergie qui est tellement particulière que si tu veux vraiment rester tout le temps dans cette concentration, cette dédication, ce surrender, ce lâcher-prise, où tu vraiment sens qu'il y a autre chose qui te meut, voilà, qui te bouge, si tu veux vraiment t'abandonner à ça dans un cadre où collectivement ça va dans la même direction, je ne connais pas d'autre endroit qu'Auroville sur cette planète pour l'instant. Évidemment, on peut le faire partout, mais honnêtement, le faire avec cette intensité, cette rapidité, il y a une accélération ici qui est extraordinaire, du travail intérieur et du travail collectif, même si ça ne se voit pas toujours pour un regard extérieur, que je ne trouve pas ailleurs, j'ai pourtant cherché ailleurs. Une fois que tu connais Auroville et que tu as cet appel, ce serait difficile de résister. Tu peux mettre le temps qu'il faut, mais un jour tu vas te retrouver ici. Il y a des communautés qui sont très chouettes et beaucoup de projets qui sont similaires dans leur approche, mais Auroville a été vraiment fondée par quelqu'un, par mère, et qui a mis cette intention, cette énergie et cette destinée qui est déjà écrite, qui va se réaliser avec nous ou sans nous. Oui, il se fera, j'en suis intimement persuadée. C'est pour pour ça que je suis ici. Et le processus, c'est ça qui est le plus intéressant quand on est en plein dedans.
Oui, oui.
Après sa préparation, Sandrine nous a laissé enregistrer une séance de jeu de peindre.
Pas fini ?
Thank you.